Donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 juillet 2014, chez Robin Dorsil et Morgane Guériac en votre compagnie. Bonsoir à tous, bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Qu'est-ce qui a fait tomber l'avion d'Air Algérie dans le nord du Mali, tuant les 118 personnes à son bord?
Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions, elles viendront. Il y a des hypothèses, et notamment climatiques, mais nous n'en écartons aucune.
Le président français François Hollande.
Au Mali, on assure que l'enquête sera dirigée par les autorités maliennes.
Maintenant que l'avion a été retrouvé sur le sol malien, c'est le Mali maintenant qui va maintenant diriger l'enquête sur l'accident.
En Centrafrique, à l'annonce d'un remaniement prochain du gouvernement, le Premier ministre rassure.
Oui, André Nzapayeke veut ainsi couper court aux rumeurs selon lesquelles son poste serait menacé au profit d'un nouveau Premier ministre de confession.
Conflit israélo-palestinien, répercussions en Cisjordanie et dans les quartiers arabes de Jérusalem, sans oublier les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Pas de survivants suite au crash jeudi d'un avion d'Air Algérie. Les débris de l'appareil ont été repérés hier soir dans le nord du Mali par un hélicoptère de l'armée burkinabé dans la zone de Gossi, près de la frontière avec le Burkina Faso. À destination d'Alger, le AH-57 s'est écrasé 50 minutes après avoir décollé de Ouagadougou, la capitale burkinabé. 118 personnes étaient à bord, dont 54 Français. Une centaine de soldats français ont été dépêchés sur place. On écoute François Hollande, président de la France.
Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux premières investigations. Il n'y a hélas aucun survivant. Je partage la douleur des familles qui vivent une épreuve terrible. L'enquête est en cours sur les causes de cette tragédie. Une boîte noire a d'ores et déjà été récupérée. Elle est acheminée vers Gao et pourra donc être examinée dans les meilleurs délais. Ce que l'on sait déjà, c'est que les débris de l'avion sont concentrés sur un espace limité. Mais il est encore trop tôt pour tirer les conclusions. Elles viendront. Il y a des hypothèses, et notamment climatiques, mais nous n'en écartons aucune, parce que nous voulons tout savoir sur ce qui s'est produit.
Le mauvais temps pourrait être à l'origine du crash. Une tempête de sable s'abattait sur la zone lorsque l'avion s'est écrasé. La piste terroriste n'est cependant pas écartée. D'après le gouvernement français, il n'y avait pas de personnes suspectes à bord. L'enquête sera conduite en concertation étroite avec les autorités maliennes, burkinabées, algériennes et espagnoles, assure la France. Des experts internationaux sont attendus sur place. De son côté, le président malien s'est rendu sur le site où se trouve l'épave, un lieu sécurisé par les militaires maliens, français, ceux de la MINUSMA, de Bamako, le compte-rendu de Kassim Traoré.
L'épave de l'avion d'Air Algérie a été retrouvée sur le territoire malien à Gossi, une localité située à 100 km de la ville de Gao. Parmi les 118 personnes à bord, il y avait un Malien du nom de Boubacar Diallo, Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'équipement et des transports, président de la cellule de crise.
Maintenant que l'avion a été retrouvé sur le sol malien, c'est le Mali maintenant qui va maintenant diriger l'enquête sur l'accident. Nous allons le mettre à l'œuvre pour le mettre en place au niveau de nos autorités techniques et la commission d'enquête internationale que nous allons bientôt mettre en place.
Il a demandé le soutien de la France pour que les choses puissent aller vite.
Le chef de l'État a eu des contacts avec beaucoup de ses collègues et il a décidé de se rendre lui-même sur le site pour vraiment montrer combien le pays est attristé et combien le président lui-même s'est impliqué dans l'exercice.
Les techniciens maliens ont aussi souhaité le soutien logistique de la France pour le rapatriement des différents corps dans leur pays d'origine, Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Notons enfin qu'un deuil national de 3 jours a été décrété en Algérie. Et nous restons dans la région. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Arnaud Antoine Akodjenou du Bénin comme son représentant spécial adjoint à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Boko Haram a encore frappé au Cameroun. Plusieurs dizaines d'islamistes nigérians ont attaqué le village frontalier de Balgaram dans l'extrême nord du pays. L'assaut a été mené hier soir à l'heure de la prière, selon une source sécuritaire camerounaise citée par l'AFP. Deux militaires camerounais ont été tués lors d'affrontements avec les assaillants.
En Centrafrique, le Premier ministre de la Transition a fait le point sur la formation du prochain gouvernement. André Nzapayeke a indiqué aujourd'hui que son poste n'est pas menacé. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Oui, André Nzapayeke veut ainsi couper court aux rumeurs selon lesquelles son poste serait menacé au profit d'un nouveau Premier ministre de confession musulmane.
Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'on dise que mon poste serait en jeu. La charte définit clairement les contours de mon poste. En tout cas, je peux vous rassurer, mon poste, pour l'instant, on ne joue pas avec. C'est le poste le plus sérieux. C'est là où vraiment on coordonne l'action gouvernementale. C'est là où on a du travail à faire. J'entends beaucoup de choses sur Internet, qu'il y aurait un Premier ministre musulman. Moi, personnellement, je me battrais pour qu'on ne confessionnalise pas ce pays. La confessionnalisation nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui.
Autre inquiétude, c'est le respect de l'accord de cessation des hostilités par les belligérants. Pour Patrice Edouard Ngaïsona, coordonnateur des anti-Balaka, l'application doit être immédiate.
L'application, c'est immédiat. Nous allons nous atteler avec le concours de la communauté internationale pour amorcer maintenant le processus de cessation d'hostilité, de regroupement de nos éléments et d'attendre le DDR. Nous avons le devoir de respecter l'engagement que nous avons pris pour le bien du peuple centrafricain.
Et c'est dans ce contexte que les examens du brevet des collèges ont débuté ce vendredi dans sept centres de la capitale centrafricaine.
Journée ville morte peu suivie ce vendredi à Kisangani en République démocratique du Congo. La société civile locale entendait protester contre l'arrivée prochaine de combattants FDLR et de leurs familles dans un camp militaire de la ville. Et ce, dans le cadre du programme de désarmement pour pacifier l'est de la RDC. Kisangani ne doit être qu'une étape provisoire avant l'accueil définitif à l'étranger par un pays tiers. Seulement aujourd'hui, aucun pays ne s'est manifesté pour accueillir les FDLR. Ernest Moukouli est le président du MEPAD, Média pour la paix et la démocratie.
La population garde encore les stigmates de la guerre entre les Rwandais et l'Ouganda dans cette ville durant 6 jours. Les caractères qu'on peut dire criminels ou génocidaires qu'on essaie d'attribuer aux FDLR, ça n'inspire pas confiance, surtout que la ville de Kisangani jusque-là n'a jamais été indemnisée. Ça pousse la société civile à ne pas accepter que les FDLR soient cantonnés ici. Avec tout ce qui s'est passé dans les Kivu, comment on peut accepter qu'on expose la population de Kisangani?
Il pourrait s'agir du premier cas d'Ebola au Nigeria. Un ressortissant libérien hospitalisé à Lagos avec les symptômes de cette fièvre hémorragique est décédé. C'est ce qu'a déclaré un représentant des services de santé de l'État de Lagos, sans préciser si le virus est à l'origine du décès. Le patient âgé de 40 ans qui arrivait de Monrovia avait été hospitalisé suite à de violents vomissements et diarrhées. Il était passé par le Togo avant d'atteindre la capitale économique du Nigeria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Proche-Orient.
Accrochage entre manifestants palestiniens et forces israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et poursuite des combats entre l'armée israélienne et les militants du Hamas dans la bande de Gaza. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon des sources médicales palestiniennes, deux Palestiniens ont été tués par balle dans le village de Hawara, en Cisjordanie. On ignore pour le moment dans quelles circonstances. Des sources sécuritaires citées par l'AFP font état de 5 morts près de Hébron et à Naplouse, dont 4 partirent de l'armée israélienne. La nuit dernière, des milliers de Palestiniens ont tenu probablement leur plus grande manifestation depuis une décennie pour exprimer leur solidarité avec la bande de Gaza. Et aujourd'hui, à Jérusalem-Est, des dizaines de protestataires palestiniens ont lancé des pierres et cocktails Molotov sur un point de contrôle de l'armée israélienne. Son offensive de 18 jours contre le Hamas a continué et plusieurs maisons ont été bombardées aujourd'hui à Gaza. Un responsable de service de propagande du djihad islamique et de 2 de ses enfants font partie des morts, selon les Palestiniens. Plus de 800 personnes ont été tuées à Gaza. À Beyrouth, le chef du Hezbollah libanais a appelé les pays arabes et musulmans à armer la résistance palestinienne à Gaza. Selon l'AFP, Hassan Nasrallah s'est dit prêt à lui apporter son soutien total. Pendant ce temps, au Caire, discussion sur un éventuel cessez-le-feu entre le secrétaire d'État américain John Kerry, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry. Quant au cabinet de sécurité israélien, il devrait décider aujourd'hui s'il faut prolonger l'offensive ou explorer la possibilité d'une trêve de 5 ou 7 jours pour permettre des négociations.
Les États-Unis accusent la Russie d'avoir tiré sur des positions de l'armée régulière dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque transfrontalière, selon le Pentagone, est la preuve d'une escalade du conflit entre les troupes ukrainiennes et les séparatistes pro-russes qui ont proclamé l'indépendance de plusieurs régions de l'est. Entre-temps, le président Obama s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre hollandais Mark Rutte des possibilités de sanctions additionnelles contre Moscou.
Au Pakistan, les autorités affirment que les insurgés ont tué 2 policiers dans le sud-ouest du pays. L'incident a eu lieu ce vendredi à proximité de Quetta, capitale de la province du Baloutchistan. Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque.
En Afghanistan, près de 60% des urnes du second tour de la présidentielle sont arrivées à Kaboul pour l'audit général négocié par le secrétaire d'État américain John Kerry. C'est ce qu'annonce le porte-parole de la commission électorale. Aucun des 8 millions de bulletins n'a été invalidé, les critères n'ayant pas encore été fixés.
Le président américain Barack Obama reçoit ce vendredi après-midi à la Maison-Blanche 3 dirigeants d'Amérique centrale pour évoquer la question de l'afflux sans précédent de mineurs clandestins vers les États-Unis. Michel Joseph.
Ce sont les présidents du Guatemala, Otto Pérez Molina, du Honduras, Juan Orlando Hernandez et du Salvador, Salvador Sanchez Seren, qui ont été conviés à Washington. D'après l'exécutif américain, l'objectif de la rencontre est d'examiner les moyens de renforcer la coopération visant à juguler l'afflux de migrants sans papiers depuis l'Amérique centrale vers le Mexique et les États-Unis. Quelques 60 000 enfants sans papiers non accompagnés, originaires essentiellement de ces 3 pays, ont été interpellés à la frontière avec le Mexique depuis octobre. Le président Obama avait déjà exhorté les parents de ces pays à ne pas envoyer leurs enfants illégalement aux États-Unis. Il a réclamé au Congrès une enveloppe de 3,7 milliards de dollars pour accroître les capacités d'arrestation et de détention de clandestins qui traversent la frontière, accélérer les expulsions d'adultes et renforcer les services aux réfugiés mineurs non accompagnés. Mais les républicains qui dominent la Chambre des représentants ont exprimé leur désaccord à ce sujet. Le président est fautif, disent-ils, à cause de sa décision en 2012 de régulariser des centaines de milliers de jeunes sans papiers.
Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie, en direct du Studio 13 à Washington. Il est 18h43 en temps universel, 14h43 ici à Washington, la partie magazine de notre émission. Et on met le cap sur la Côte d'Ivoire, Morgane.
Adopté à l'Assemblée nationale et promulgué par le chef de l'État, la composition de la nouvelle commission électorale indépendante continue d'alimenter les discussions dans les milieux politiques. Après les débats animés par les responsables des partis, ce sont les jeunes qui donnent de la voix. Kwadio Konan Bertin, dit Kakabé, et Touré Mamadou, tous deux du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la Paix, sont diamétralement opposés sur cette nouvelle configuration. Ils l'ont fait savoir au cours des conférences de presse. Depuis Abidjan, Germaine Dri nous en dit plus.
Tous les débats qui ont lieu en ce moment sur la nouvelle commission électorale indépendante sont, si l'on en abuse, le reflet de ce que seront les élections prévues dans le pays en octobre 2015. Après le rejet de la nouvelle mouture de la CEI par l'opposition, ce sont les jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la Paix qui exposent leur point de vue. Le député Kwadio Konan Bertin, dit Kakabé, ancien président de la jeunesse du PDCIRDA, se dit opposé à cette version promulguée par le chef de l'État.
J'ai pointé avec force détail les points potentiellement conflictuels du projet gouvernemental. Rien n'y fit. Avec un collectif de députés, nous avons saisi le Conseil constitutionnel Mais dans une sorte d'aveuglement, le Conseil a préféré valider la position du gouvernement, laissant tout entière la menace que fait planer sur nos compatriotes l'action future d'une commission à ce point déséquilibrée, structurellement partiale et en mission commandée pour un camp. Issou Bakayoko ne devrait plus jamais être associé à l'organisation d'opérations électorales. Il aurait dû être démis de ses fonctions et contraint à rendre tout au moins des comptes à la nation. Au lieu de cela, il est maintenu à son poste sans le moindre égard pour la mémoire de nos compatriotes emportés par la crise consécutive à la mauvaise gestion des élections. Le combat pour une CEI équilibrée et transparente ne fait que commencer. C'est une exigence démocratique.
Touré Mamadou, cadre du RHDP, conseiller du président de la République chargé de la jeunesse, pense que des améliorations notables ont été apportées.
Le député de Port-Boué fait preuve soit de mauvaise foi ou est atteint d'amnésie. En effet, rappelons que la CEI, dans son ancienne formule, comprenait 31 membres. La nouvelle nomenclature de la CEI, qui a été définie avec l'aide des experts du NDIG, ne comprend que 17 membres. En plus, les représentants des mouvements ayant revendiqué la rébellion commencée en septembre 2002 ont été supprimés. Le représentant du président de l'Assemblée nationale a été supprimé. Le représentant du Conseil économique, du président du Conseil économique et social, supprimé. Et le ministère de l'Intérieur, qui avait deux représentants, a désormais un seul représentant. Mieux, on enregistre l'entrée de la société civile et des religieux. Cela ne peut faire que renforcer l'indépendance et l'impartialité de cette commission. Par ailleurs, c'est la CEI présidée par Issou Bakayoko qui a organisé les élections législatives qui ont permis à Kakabé d'être aujourd'hui député de Port-Boué. Pourquoi Kakabé ne remet-il pas donc en cause sa propre élection? Ou bien le président de l'ancienne commission électorale indépendante que Kakabé accuse de tous les maux aujourd'hui, était-il subitement bon au moins des élections législatives et ne l'est pas aujourd'hui? Pourquoi ce jugement à géométrie variable?
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Vers une percée dans la lutte contre l'Ebola, un laboratoire médical de l'État du Colorado aux États-Unis est en train de développer un test de terrain rapide et fiable pour détecter le virus. Les études sont si prometteuses que l'Institut national de la santé a offert une subvention de 2 900 000 dollars au laboratoire.
La nouvelle a été bien accueillie en Afrique et notamment en Guinée, l'un des épicentres de la maladie qui a tué près de 800 personnes cette année en Afrique de l'Ouest. Pour le docteur Mamadi Koulibaly, directeur du Centre international des infections tropicales en Afrique de l'Ouest, l'avènement d'un test fiable est un réel motif d'espoir.
Cela répond effectivement à un besoin chez nous. Nous en avons cruellement besoin. Seulement, il faut dire que Colorado, la Guinée, c'est déjà la distance de ce qu'on a besoin d'un laboratoire de proximité, ce qui serait encore plus adéquat.
Mais est-ce que les tests qui se faisaient avant n'étaient pas adéquats sur le terrain?
Les premières échantillons que nous avons prélevés depuis l'apparition de cette terrible maladie, ces échantillons ont été transférés et les analyses ont eu lieu seulement en France et à Dakar. Et c'est là-bas qu'on a pu dépister le virus en cause. Véritablement, ici, dans mon laboratoire, on ne procède pas au dépistage sur le terrain. Mais je dois vous dire que les autorités au plus haut niveau ont pris le problème très au sérieux et dans quelques jours, on doit relancer la construction d'un laboratoire qui est en vocation sous-régionale et je pense que cela pourra répondre effectivement à des besoins d'analyse adéquates et urgentes sur le terrain.
Alors, selon vous, pour qu'un test soit crédible sur le plan scientifique, quelles caractéristiques doit-il avoir?
Puisque nous sommes en zone tropicale, il faut d'abord exclure tous les autres cas de fièvre qui sont très abondants chez nous, des procédés exclusifs auxquels il faut souscrire d'abord, c'est-à-dire il faut exclure le cas de paludisme, il faut exclure le cas de typhoïde, il faut exclure le cas de fièvre jaune, il faut exclure tant d'autres cas pour maintenant tenir en suspicion la fièvre Ebola.
Voilà, c'était le docteur Mamadi Koulibaly qui a été joint en Guinée par Jean-Roger Billon.
Vous écouter Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique chez Ruben Dorcy et Morgane Guiriec en votre compagnie. Juste avant de passer à notre prochain sujet magazine Morgane, signalons qu'Israël a rejeté une proposition de cessez-le-feu offerte par le secrétaire d'État américain John Kerry. Cessez-le-feu qui devrait intervenir entre les militants du Hamas palestinien et l'armée israélienne. Nous y reviendrons un peu plus tard.
C'est aujourd'hui le dernier vendredi avant la fin du Ramadan. À Conakry, la capitale guinéenne, les fidèles se préparent pour les célébrations de l'Aïd.
Il y avait du monde devant les guichets automatiques des banques, mais également dans les marchés, comme ici à Matoto, où tous les vendeurs ont repris leur place tôt ce matin, malgré une nuit entièrement consacrée à la prière.
Il y a un peu de clients. On nous souhaite aujourd'hui déjà... Presque c'est la fin du Ramadan. Donc aujourd'hui, comme demain aussi, c'est la fin du Ramadan. C'est dans ça qu'on peut avoir un peu.
Ibrahim vend des habits pour enfants.
Le plus vendu, c'est 75 000. La meilleure qualité, c'est à partir de 75 000. Mais il y a des moins. Il y a des moins, il y a 50 000 parce que les gens sont pauvres.
Est-ce que c'est l'article le plus demandé pour cette fête?
Le plus demandé actuellement, c'est le prix de 50 000.
Les jeans?
Les jeans. Parce que ce qui est un peu cher, les gens ne prennent pas. Il y a besoin, mais il n'y a pas de moins.
Alors, et les chaussures? Est-ce qu'il y a plus de clients? Est-ce qu'il y a des demandeurs?
Il y a des demandeurs majoritairement.
Ça va un peu?
Ça va un peu aujourd'hui même. Plus que ce qui est passé.
À quelques mètres de Ibrahim, je rencontre Mariam.
Habillé, merci ici. Habillé pour les enfants avec chaussures. Ça marche un peu, un peu.
Ça vient d'où ces habits que vous vendez pour les enfants?
C'est quitté la Chine, ou bien Sénégal, ou bien Dubaï.
Devant la clientèle, on préfère l'argent à la question du journaliste.
Attends, d'abord, je vais chercher l'argent.
Vous allez chercher l'argent?
Oui. Combien je parle là?
56.
En sortant du marché, le ronronnement d'un générateur nous attire vers un atelier de couture. Ici, on pédale plus vite que d'habitude. Binta, couturière.
Nous passons les nuits ici depuis le 25 du Ramadan. Nous avons livré une partie, l'autre sera disponible avant la fête.
Pour les chefs de famille, certains articles sont chers.
Les prix sont chers. Depuis qu'on est venu au marché ce matin, on ne fait que marcher. Nous n'avons pas pu acheter ce que nous voulons. Il n'y a pas d'argent. On peut dire 80 000, 150 000 francs, 130 000 francs.
À quelques jours de la fête, les marchés ne désemplissent pas dans la capitale. Chacun pressé de s'offrir habits et autres recettes pour les plats à partager en famille. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
La 20e conférence internationale sur le sida à Melbourne, en Australie, s'est achevée ce vendredi après avoir réuni quelque 12 000 délégués pendant 6 jours dans la métropole australienne, Gabi.
On écoute Jacques Aristide.
La grand-messe biannuelle contre le VIH-Sida s'est clôturée sur une note d'espoir et elle est de taille. Car la fin de la pandémie est jugée possible d'ici à 2030, comme l'a laissé entrevoir le directeur exécutif de l'ONU-Sida, Michel Sidibé, un sentiment partagé par l'ex-président américain Bill Clinton.
We are here on this 20th anniversary of the conference.
Nous sommes ici à l'occasion du 20e anniversaire de cette conférence pour célébrer les progrès réalisés depuis que le monde a pris la bonne décision de lutter contre le sida et éventuellement d'épargner aux futures générations cette maladie. Il n'est absolument pas question de renoncer à la lutte. Et nous devions tous donner l'exemple.
Le combat n'est pas terminé, en effet, même si le nombre de décès et d'infections a fortement chuté, comme l'ont souligné d'autres participants à la conférence de Melbourne, à l'image de la présidente sortante de l'International AIDS Society, Françoise Barré-Sinoussi, et du chanteur Bob Geldof. L'activiste irlandais n'y est pas allé de main morte, accusant d'indifférence les pays riches et critiquant vertement les nations dotées de lois répressives. Il a estimé que les financements pour éradiquer la maladie devraient être garantis de manière univoque. Bob Geldof.
When I'm in Africa, when I'm amongst the victims
Lorsque je me rends en Afrique, me retrouve en compagnie de ces victimes dont vous avez tous parlé et avec qui je travaille depuis 30 ans, je vois toute une innocence noyée par une vague d'abandon.
Du côté de la recherche, des avancées ont été notées, notamment en matière de médicaments anti-VIH chez des personnes séronégatives exposées au risque d'être infectées, dont la prophylaxie pré-exposition, la PREP, qui est derrière le succès du Truvada. Le docteur James Rooney de Gilead Sciences, le fabricant de cette pilule.
La PREP est en fait une nouvelle stratégie pour la prévention du VIH. C'est une stratégie qui comporte des médicaments anti-VIH, souvent utilisés dans le traitement de la maladie, mais que nous prescrivons ici aux personnes à très haut risque de la contracter.
Autre approche pour réduire le risque d'infection, la circoncision. Car des tests menés depuis 2005, notamment en Afrique du Sud, ont prouvé qu'elle diminue le risque chez les hommes de 50 à 60% en accordant une certaine protection aux femmes. De même, un traitement rigoureux par une combinaison d'antirétroviraux réduit énormément le risque pour une personne séropositive de transmettre le VIH à un partenaire séronégatif. Alors que le dépistage à domicile a également été proposé pour les régions les plus affectées, dont plusieurs pays africains. Rendez-vous est déjà pris pour faire le point sur ces nouvelles propositions. Ce sera lors de la 21e conférence internationale sur le sida qui aura lieu en 2016 à Durban, en Afrique du Sud, qui avait déjà accueilli l'événement.
La page sport tout de suite avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
L'information de la journée dans la planète football, c'est le retour de Didier Drogba en Angleterre.
Et oui, la star ivoirienne qui va effectuer son retour sur les bords de la Tamise. Le club anglais de Chelsea a officialisé l'information ce vendredi sur son site internet. Didier Drogba, 36 ans, revient en Angleterre pour un contrat d'un an. C'est ce qu'a annoncé Chelsea, le club où il avait joué 8 ans, de 2004 à 2012. L'attaquant était en fin de contrat à Galatasaray en Turquie, où il a passé 18 mois.
La Ligue africaine des champions reprend ses droits ce week-end. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Début de la phase retour avec cette quatrième journée. Dès ce soir, dans le groupe B à Tunis, Al-Ahly Benghazi reçoit le leader de ce groupe, l'Entente sportive de Sétif. Et demain, le CS Sfaxien affronte l'Espérance sportive de Tunis. Et dimanche, dans le groupe A, on suivra la performance des deux clubs congolais. À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'AS Vita Club jouera contre El Hilal du Soudan. Et puis, voyage périlleux à Alexandrie pour le tout-puissant Mazembe qui se déplace aux Amalek.
C'est pas pour rien qu'on les appelle tout puissants. On va voir cyclisme, le Tour de France, Nicolas.
À la veille de du contre-la-montre indécisif de Périgueux, la pluie a compliqué la progression du Tour de France, dont la 19e étape a été remportée ce vendredi à Bergerac par Ramūnas Navardauskas. C'est pas facile, premier lituanien vainqueur de la Grande Boucle. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'italien Vincenzo Nibali.
Et si ça peut te consoler, Nicolas, j'aurais pas fait mieux. Voyons, Ramūnas Navardauskas. Voilà. Merci, c'était les sports avec Nicolas Pinault.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Island Music, aujourd'hui dans RM Show, nous parlerons de Lucky Dube, chanteur sud-africain de reggae qui nous a quittés il y a 7 ans. Il chantait son enfance, son vécu, l'histoire, l'Afrique, les problèmes politiques, sociaux, personnels et humains. Il luttait contre les discriminations raciales et ethniques, contre la ségrégation et l'exclusion. Dube prêchait l'unité entre les hommes. On l'écoute, The House of Exile.
But you left all that
Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Michel Joseph avec l'assistance technique de notre ami Dryden. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Et Morgane, on va bien commencer le week-end?
Ben oui, en musique.
En musique? Bon, pas de détails, je ne sais pas où tu vas.
Je vais au Jazz in the Garden.
Ah, congratulations. À la présentation, avec Morgane Guériac, c'était chez Rubin Dorsil.